disons, mi-trentaine, quarantaine, que là, au niveau physique, là, quand je te dis, je me suis disloqué le coude en enlevant un chandail. Ça reste un choc, tu sais, quand t'as joué au hockey, quand t'as, si je levais des poids, ces choses-là, là, je peux plus. C'est sûr que cette perspective-là, je me dis, ça va être quoi, j'ai 60, j'ai 70. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe un petit peu. Fait que j'ai tendance à profiter pas mal. Tu sais, là, je peux voyager, go, là. Puis, je fais que ça, j'essaie de le faire le plus possible. Tu sais, prévoir l'avenir au niveau financier, là. Mais en même temps, si je m'arrive à une situation où je suis tellement limité que là, le voyage est difficile, je suis bien dépenser mon dollar voyage maintenant.
Bienvenue au 8e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. Mon nom est Brigitte Gem et avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me soumettre des suggestions en visitant laquarantainebalado.com. Il me reste une douzaine de places disponibles. Vous pouvez aussi m'écrire pour me faire part de vos commentaires à bonjour@laquarantainebalado.com. Il me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je rencontre aujourd'hui Patrick Tanguay, 49 ans, qui est gestionnaire en ressources humaines à l'Agence spatiale canadienne. Patrick vit par ailleurs avec le syndrome de Morquio, une maladie dégénérative qui réduit progressivement sa mobilité et cause de la douleur chronique. Patrick me raconte son enfance, le début de ses défis de santé alors qu'il n'avait que 4 ans, et comment le besoin de se défendre a peut-être influencé le développement de sa personnalité. On parle de la difficulté de faire des choix de vie, des choix de carrière quand on vit dans l'incertitude quant aux capacités futures de notre corps. Patrick, qui se déplace surtout en fauteuil roulant, partage sa passion pour l'accessibilité à tous des lieux publics et privés. Ensemble, on explore comment l'humour peut faire avancer la cause des personnes qui vivent avec un handicap. Merci de partager ce moment avec nous. Bonjour Patrick Tanguay, bienvenue à La Quarantaine.
Bien, merci. Bonjour Brigitte.
Ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui et juste pour être sûr que tu es éligible, quel âge as-tu?
J'ai 49 ans, donc je suis tout juste éligible.
Pfiou, quelques mois encore, on va se dépêcher de diffuser ça. Et j'aimerais commencer, Patrick, en te demandant de me décrire une journée dans la vie de Patrick Tanguay, de quoi ça a l'air?
OK, ben c'est quand même assez simple. J'ai une vie assez normale. Si je prends aujourd'hui, c'était une journée de travail, je suis pas allé au bureau. Des fois, on est encore en télétravail ici, donc je me lève, je m'assois sur mon fauteuil, puis je suis en fauteuil roulant. Puis je prépare une petite journée. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas très compliqué mes matins, j'ai juste à m'occuper de moi-même. Je prépare tranquillement ma journée, lis les journaux. Je commence assez tôt au travail en général, entre 7h et 8h. Que ce soit à la maison ou au bureau, là, juste assez de commencer assez tôt. J'ai des journées assez remplies au niveau du travail, donc beaucoup de rencontres. Je suis chef d'équipe. Je travaille en ressources humaines, donc on a plusieurs intervenants à consulter ou à des clients, ces choses-là. Fait qu'en général, c'est ça. J'ai aussi ça dépend des journées, mais je donne des conférences. Donc, ça peut être aussi des journées où je dois préparer un petit peu mes conférences. Je m'implique aussi un petit peu dans des conseils d'administration. Donc, dépendamment de la journée, des fois le soir, je vais avoir des rencontres à cet effet-là. C'est des rencontres qui se font aussi pas en présentiel, en virtuel. Je suis une personne en situation de handicap, donc je m'implique dans des CA qui sont liés aux personnes en situation de handicap. Donc, le fait de ne pas se déplacer, c'est un gros plus pour beaucoup des membres du CA. Donc, on fonctionne en virtuel. Donc, quelques soirées comme ça. C'est pas mal ça. J'ai pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'activités organisées pour les personnes en fauteuil. Donc, je suis pas dans des équipes quelconques sportives ou ces choses-là. Puis en plus, moi, depuis, c'est une maladie dégénérative, donc je suis beaucoup moins actif que je l'ai déjà été en termes d'activité physique. J'essaie quand même, mais disons que c'est plus difficile. Fait qu'en général, c'est ça, c'est pas très compliqué. Le soir, je m'occupe avec des amis, ça va dépendre. J'essaie de l'actualité, ces choses-là, là, mais rien de très excitant.
Une vie bien ordinaire à plusieurs égards. avec deux roues en plus.
Quatre,
oui. C'est probablement plus sécuritaire. À deux roues, ça serait peut-être plus le fun, par exemple.
Oui, ça serait bon pour les abdos, je pense, pour garder l'équilibre. Mais ouais.
Je dois dire qu'on s'est connus dans le contexte du Parlement étudiant du Québec il y a de nombreuses années, comme certains autres invités de la quarantaine. Puis j'ai un vague souvenir, puis je me suis dit, il faudrait que tu te demandes ça. Est-ce que j'ai imaginé ça, que ton frère et toi, vous faisiez un genre de course du sommet, comme en face du Parlement, pour descendre, il faut dire que c'était tard le soir, entre Noël et jour de l'an, il n'y avait pas beaucoup de trafic, là, mais pour essayer de vous timer avec la lumière. Est-ce que j'ai imaginé ça?
Non. Mais en fait, c'est mon frère est en fauteuil aussi. Alors, on a la même maladie, puis c'était toujours un plaisir pour nous de... Monter les côtes en fauteuil, c'est vraiment pas le fun, mais les descendre, c'est pas mal trippant. Puis même à 49 ans, je te dirais, que je continue à faire du downhill rapide, lorsque possible.
Vivre dangereusement, j'aime ça. Oui. Et puis, à toutes les fois que je passe à toi, c'est la première chose à laquelle je pense. Puis, en plus, il faisait froid, c'était l'hiver. Il y avait probablement des plaques de glace, mais ça vous empêchait vraiment pas d'avoir du fun.
Non, puis ça, tu n'étais peut-être pas là, mais Sylvain a d'ailleurs frappé une plaque de glace et s'est écroulé en pleine face. Donc, j'ai gagné la course, en fait, cette fois-là.
Bon, c'est l'avantage. Je ne lui demanderai pas sa version, juste au cas. Voir qu'est-ce qu'il en pense. Mais dis-moi un peu plus, parle-moi un peu, si ça ne t'embête pas, de c'est quoi la condition qui t'affecte. Puis, peut-être qu'on peut en parler comme, je pense que ça fait partie aussi de tes origines, de ton enfance. Parle-moi un petit peu des origines de tout ça.
OK. Ça s'appelle le syndrome de Morquio, qui est une branche de la mucopolysaccharidose. Et ça se développe au cours de la croissance. Donc, à la naissance, c'était pas apparent du tout. C'est plus vers l'âge de 4 ans que là, présentement, je suis en fauteuil roulant, bon, manuel. Je suis quand même capable d'utiliser mes membres. Je peux marcher sur des courtes distances. Essentiellement, c'est la douleur qui m'empêche de marcher. Là. Ça fait mal aux os, les articulations. Et c'est vers 4 ans que les premiers symptômes apparaissent. Je traînais de la patte un petit peu là, en marchant. J'étais moins endurant que les autres enfants de mon âge, en termes de marche. Début de déformation aussi, défaut de posture. Tu m'as déjà vu, là. Donc, je suis de petite taille, 4 pieds 10. Et puis ça, c'est grand en plus. 4 pieds 10, c'est comme presque grand pour notre maladie. Donc, c'est ça. Au début, les parents observent des crampes liées à la marche, déformation du thorax, donc problème de posture associé à ça. Donc, le début des consultations médicales. Mon frère a 2 ans plus jeune que moi, donc c'est le même pattern. Donc, mes parents ont dû attendre là, qu'il ait l'âge de 4 ans avant de voir si... parce que la maladie se développe ou se développe pas. C'est pas un automatisme. Puis, maintenant, ils peuvent le diagnostiquer avec une prise de sang, mais à l'époque, non. Donc, c'est un peu... Puis les pronostics étaient très sombres au début, étant donné la rareté de la maladie. Pour te donner une idée, là, je fais partie de l'association Morquio, je suis membre du CA, donc on a une cinquantaine de membres au Québec.
Wow!
OK, c'est ça.
C'est pas beaucoup, c'est assez pour les connaître tous par nom, pratiquement.
Exact. Puis, en plus, le Québec a une concentration élevée de gens qui ont... Tu sais, par rapport à la population, là, on a une concentration élevée. Donc, au départ, les prognostics étaient assez sombres. Mes parents, les médecins, ils n'étaient pas sûrs si on allait vivre longtemps. Les premiers prognostics, c'était genre la vingtaine, peut-être la trentaine. Puis ça a pris... je peux pas le dire exactement, là. C'est probablement vers l'âge de 14-15 ans que là, on a eu le diagnostic de syndrome de Morquio. Donc, c'est pour ça tantôt, je te disais, c'est une branche de la mucopolysaccharidose. Donc, il y a diverses branches. Et les ça peut affecter grandement la qualité de vie là, selon la branche que tu as. Donc, moi, j'ai pas mal dans les moins pires. Fait que ça. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de mon enfance, c'est tranquillement. J'ai commencé à utiliser un fauteuil à temps plein, pas mal, là, en secondaire 3. Mais vois-tu, mon frère qui a la même maladie, lui, c'est en cinquième année du primaire. Donc, c'est vraiment variable. Puis, on faisait des exercices, là, dès qu'on a eu le diagnostic, pour ralentir la progression de la maladie. Donc, c'était de faire. J'avais des devoirs comme les autres enfants, plus
La physio,
la
en gros.
physio. Oui, mais on le faisait à la maison. Donc, mes
OK.
parents ont tenu leur bout, là. Au début, c'était censé se faire à l'hôpital, mais ça a été une gymnastique impossible. Puis, on voulait aller à l'école régulière, pas une école spécialisée. On voulait aller à la même école que c'est du quartier. Donc, bref, donc ça faisait à la maison, donc ça n'a pas été trop invasif de ce point de vue-là.
T'es né sur la rive sud de Montréal, c'est ça?
West Island,
Ah,
ouais.
OK. Donc, pas trop loin. Mon frère a passé beaucoup de temps à Sainte-Justine dans son enfance. Je présume que peut-être toi aussi.
C'était l'île Perrot. Donc, passé Saint-Anne-de-Bellevue, tous ceux qui connaissent la région. En fait, je suis né à la Chine, mais mes parents ont déménagé, j'avais 2 ans. Je ne connais ça venir. Fait que c'est ça, oui, c'est ça. Donc, dans l'ouest de l'île, tout juste en dehors de la communauté urbaine.
As-tu l'impression que c'est quelque chose qui, dans ta jeunesse et aujourd'hui, ou en contraste, peut-être que c'est différent, mais qui te définit ou quelque chose
Ben,
dont tu es... Est-ce que c'est quelque chose qui, comme t'es arrivé, ou quelque chose que tu es? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
ouais. Forcément, je pense que ça fait partie de mon identité et de ce que je suis. Parce que ça influence tellement de choses dans ta vie. L'acceptance à un jeune âge de perdre tes facultés. Tu sais, d'habitude, ça arrive plus peut-être justement dans la quarantaine. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, dès la première année, là, tu sais, dès que j'étais confronté à d'autres enfants, au début, c'est pas trop pire. Tu penses juste que c'est différent. Tu penses juste que, tu sais, il y a des gens qui ont des yeux bleus, puis d'autres bruns, puis que c'est pas plus grave que ça, mais là, tu arrives à l'école, puis là, tu t'aperçois que les autres, puis tu sais, le voisinage, on a tout gardé ensemble, c'est un nouveau développement. Fait que tout le voisinage, Patrick et Sylvain, c'était naturel, tu sais, même pour les voisins. Je me faisais pas achaler par mes voisins, ben, parce que c'était comme normal pour eux autres. C'est plus arrivé à l'école, tu sais, que je marchais bizarre, puis là, t'es confronté assez rapidement à ta différence. Fait que forcément, je pense, tu sais, tu veux pas dire que t'es ton handicap, mais veux pas, la société fait en sorte qu'elle te le remet tellement en face que oui, tu sais. Fait que je dirais que oui. Puis même aujourd'hui, tu sais, je dis, s'il n'y a pas une journée qu'on ne me le rappelle pas, que ce soit à cause des obstacles physiques, parce que la société n'est pas faite pour nous, ça s'améliore, mais pas vite. Mais aussi le regard des autres, le regard des enfants, tu sais, qui ont peut-être jamais vu ça, quelqu'un en fauteuil. Donc tout ça te le rappelle. Donc oui, je veux pas, ça fait pas mal partie de mon identité.
Parle-moi un peu en d'autres termes du reste de ton enfance puis de ta jeunesse. À quoi ça ressemblait la vie d'un petit gars dans l'ouest de l'île pour toi dans ces circonstances-là, mais au-delà de la question de la situation d'handicap?
Ben, c'est les années 70, hein? Je suis né en 73. C'était beaucoup jouer dehors. Je pouvais faire du vélo là, en passant, là, vélo normal. Ben, ça, c'était particulier, là, mais même quand je suis en fauteuil, je pouvais faire du vélo. Donc, le fait d'être assis, là, je peux plus, OK, en passant, là, c'est impossible. Mais le fait d'être assis, c'était correct. Fait que, écoute, on avait une piscine, je me baignais, je suis capable de nager. On jouait au baseball, je jouais aussi avec les amis. Selon mes capacités, mais on joue au hockey dans la rue, on joue au baseball, à tag, tout ça. c'était pas les ordinateurs à l'époque, ces choses-là. Donc, comme je disais, beaucoup dehors, l'école. C'est sûr que l'école, je te dirais, c'est toujours les premiers mois à faire sa place, puis pas se faire trop achaler. Mais tu sais, je prenais l'autobus jusqu'à un certain point. Après ça, il a fallu avoir une autre option. Mais fait que, honnêtement, c'est assez normal. Puis les enfants, ils étaient en général super cool, là, je veux dire. Même au primaire et tout, quand on jouait à des jeux, ils faisaient attention quand même. C'est sûr que les jeunes étant ce qu'ils sont, je me suis blessé souvent, là. J'étais plus petit, j'étais moins d'équilibre. Donc, c'est sûr que des fois, les gars, c'est un petit peu rough, là. Fait que, sans méchanceté. Fait que oui, il y avait à l'occasion des fois qu'on a dû se défendre. Donc, mais c'était normal, tu sais. Je pense pas que ça a été exceptionnel. Puis tu sais, toute la famille alentour, cousins, cousines, mes parents étaient très forts là-dedans. Ils nous ont jamais traités différemment. Eux autres, ils attendaient que les choses arrivent, malgré les pronostics. Tu sais, j'ai joué au hockey sur luge, qui est quand même assez rough, là. C'est pas un petit sport, là, relax. J'ai essayé le ski adapté. C'est sûr que, tu sais, j'ai essayé de jouer au baseball, tu sais, le t-ball, là. Ça a moins fonctionné. Ça, c'est peut-être la seule affaire que j'ai trouvé vraiment plate. C'est que, tu sais, j'étais pas capable de courir aussi vite. Fait qu'au début, il y avait une entente que je frappais la balle, puis là, quelqu'un courait à ma place jusqu'au premier but, puis là, je prenais le relais après. Puis là, t'arrives dans les finales, t'as beau avoir 6 ans, là, le monde prend ça au sérieux. Puis là, j'avais plus ce privilège-là. Tu sais, des conneries comme ça. Mais outre ces petits désagréments-là, ça a été une jeunesse bien normale. Secondaire, je faisais le party comme les autres, puis je pense que tu m'as connu un petit peu dans le cadre du Parlement étudiant, je donne pas ma place. Cégep, université, tu sais, c'était comme tout le monde, là.
On va revenir sur les choix que tu as fait après en termes de cégep, puis d'université, puis tout ça. Mais j'aimerais te poser une autre question sur la question des racines, puis d'identité. As-tu l'impression que ton identité a changé entre, mettons, l'adolescence, puis aujourd'hui, en termes de qui tu es, puis de ta communauté aussi?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand t'es, tu sais, quand t'es une personne en situation d'handicap, tu te bats un peu tout le temps pour être traité comme les autres. Tu sais, chaque petit accomplissement devient exagéré. T'sais, le seul fait que j'avais quand même une certaine facilité à l'école, par exemple, les professeurs trouvaient ça exceptionnel, qui a rien à voir avec mon handicap.
Ils
On s'entend?
s'attendaient parce que tu étais en fauteuil à ce que tu performes moins bien, genre.
Mais je sais pas si c'était ouais ou je sais pas. J'allais à l'école régulière. T'sais, j'ai toujours été le seul. Moi et Sylvain, en fait. T'sais, primaire, les deux seuls. Secondaire, qui est quand même, t'sais, la polyvalente là.
Une grosse école, là.
Il y a du monde, là. On était les deux seuls. Bon, il y avait peut-être une autre personne qui boitait, genre, mais je veux dire, tu sais, en termes de proportion, je veux dire, c'est peu. Fait que t'as toute la notion de courageux, puis tout ça, là, qui vient exagérer. Fait qu'à un moment donné, ça vient tannant, puis fait que tu te bats contre ça. Fait que tu le caches un peu, t'en parles le moins possible. Tu dis, puis là, en vieillissant, surtout la trentaine puis la quarantaine, vu que c'est dégénératif, là, ça tremble dedans un peu, là. Fait que je te dirais, la plus grosse différence de ce point de vue-là, c'est, là, je l'accepte d'être une personne handicapée, là. C'est dans le sens, pas que je l'acceptais pas avant, mais je veux dire, c'est à expliquer. C'est comme si, là, je l'affiche, je le défends plus, mes droits, au lieu de pas demander des choses que j'avais besoin, hein, dans le désir d'être traité comme tout le monde. Là, je suis un petit peu plus revendicateur.
Que tous les ados veulent être comme tout le monde, tout en étant différents, bien sûr. Mais, oui.
Mais
il y a peut-être un peu de ça.
Ben, puis là, je revendique. Tu sais, si j'ai besoin, tu sais, comme là, au travail, là, il neige, mettons. Puis nous, c'est un stationnement extérieur. Là, je peux-tu travailler de la maison? Tu sais, tant qu'à me battre, parce que fauteuil roulant puis neige, ça va pas ensemble. C'est vraiment pénible. Tu sais, 2 cm, c'est du trouble. Puis les premiers temps au travail, j'y allais, coûte que coûte. Donc, c'est sûr qu'aussi les accès à distance à l'époque n'étaient pas aussi performants que là. Puis, c'est pas un défaut de mon employeur, j'y ai jamais demandé. Tu sais, je disais, j'y vais, je suis comme... Mais là, vois-tu, en vieillissant, pourquoi je me tape ça? Pourquoi je me donne ce trouble-là? Puis le stress aussi du retour, déneiger la voiture. Puis là, j'avais des collègues formidables qui venaient déneiger ma voiture. Mais, un, c'est plate. C'est plate être en situation de d'aide. T'es toujours un peu orgueilleux. En tout cas, moi, je le suis. Alors, ce bout-là, ça change. Ce qui a changé aussi, c'est que mon niveau d'énergie, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est pour tout le monde, mais moi particulièrement, s'il y a des douleurs associées à ma maladie de style arthritique. Alors, c'est sûr que des fois, j'ai des journées plus dures que d'autres. Donc, je suis moins... Tu sais, moi, le travail, c'est important. Je veux me réaliser au travail. Mais le travail, c'est une petite partie de ma vie. Ben, c'est une grosse partie, mais je veux dire. Alors, ce côté-là, un peu carriériste, j'ai laissé tomber pas mal. Je me préoccupe plus du grand équilibre des choses. Tu sais, quand j'étais aux études, j'avais plein de projets. J'étudiais, oui, j'avais aussi des fois des petites jobines. Je m'impliquais dans des associations, plein de choses. Là, tu sais, tu as parlé de ma journée typique tantôt, ben là, j'essaie de limiter ça un petit peu. Point de vue énergie, point de vue gérer tout ça, là, puis ce bout-là a beaucoup changé, je te dirais.
Je me demande si l'impact, je prends un peu un détour, là, mais l'impact de la pandémie, puis de la montée du travail à distance, puis des relations médiatisées par Zoom, là, en gros, là, d'un certain point de vue, j'ai l'impression que ça aide, comme tu mentionnes, c'est pour les conseils d'administration, puis ça, c'est tellement plus facile, même d'avoir un groupe de personnes, par exemple, en fauteuil ou en quelconque situation d'handicap, se rencontrer, c'est bien plus facile si chacun peut rester chez lui. Tu sais, ça, c'est le grand égalisateur à certains égards. Mais en même temps, je me demande si ça ne te rend pas un peu invisible, toi et d'autres. Au bout du compte, le bilan, est-ce que tu penses que ça a été plutôt positif ou plutôt... un défi, voire négatif.
Ben, si on exclut le manque de contact en personne avec les proches, ça, c'est négatif. Le reste, c'est plutôt positif. Moi, je travaille pour le gouvernement fédéral. Ça a été, excuse le terme anglais, là, un eye-opener pour beaucoup de gestionnaires. Moi, ça allait bien, mes gestionnaires ont toujours été très accommodants. Okay, c'est pas... Mais je sais que dans le... Tu sais, c'est beaucoup de monde, là, le gouvernement fédéral. J'entendais des histoires de gens, de personnes en situation de handicap. Moi, j'ai ma voiture, là. Fait que déjà, là, c'est un gros plus, mais il y en a que c'est le transport adapté. Puis ça, c'est épouvantable. C'est un service épouvantable. Puis que l'employeur voulait pas qu'il travaille quelque chose de la maison, justement, à cause du problème du transport adapté. Mais là, tout à coup, ça devient possible. On a démontré que c'est possible. Pendant 2 ans, on a été confinés. Tu sais, à l'agence où est-ce que je travaille, tous les employés travaillaient de la maison, là. Tu sais, du jour au lendemain. Fait qu'en l'espace de 2 semaines, on a accordé des accès, donné des fourni des ordinateurs portables à tout le monde, tu sais, pour qu'ils puissent être fonctionnels. Puis là, le travail se faisait quand même.
Ah ben, on a découvert ça, que c'était possible.
C'est ça. Fait que, tu sais, la fausse perception de parce que tu es au bureau, tu travailles, là. Moi, je suis en ressources humaines, fait que c'est ça qu'on disait. C'est pas parce que tu te présentes au bureau que tu es productif. Je veux dire, on a tous connu des gens dans 20 ans de carrière qui travaillaient moins que d'autres puis qui étaient là à tous les jours. Donc, c'est pas le même que tu gères la productivité de tes employés. C'est en leur donnant des mandats, puis en suivant l'avancement de ces membres-là. Donc ça a été un gros plus parce que là, tout à coup, pour les gens qui ont des enjeux de déplacement, quels qu'ils soient, ben tout à coup, on a dit, ben regardez, là, c'est possible. Puis la personne qui travaille à la maison, puis souvent, on a même vu que les gens étaient plus productifs. Parce que tu enlèves tout le souci du retour. Puis tu sais, là, j'inclus les parents là-dedans, là, qui ont des jeunes enfants. Puis là, il faut que tu aies la garderie. Puis, mais là, tu peux tout gérer beaucoup plus facilement. Moi, j'ai des employés qui ont des jeunes enfants. Ils commencent le matin, les enfants se lèvent, font le déjeuner, vont les porter, se rebranchent. Tu sais, fait que leur journée est, en quelque part, ils font plus d'heures parce qu'ils n'ont pas à gérer le dépôt des enfants, puis aller les chercher le soir, puis tout le stress entre les deux.
Complètement. C'est tout à fait vrai, là. Mais donc, est-ce que d'un autre côté, il y a eu des aspects négatifs, outre les relations interpersonnelles avec les proches, puis tout ça?
Mais pour moi, oui, parce que moi, j'aime le contact avec les gens. Tu sais, moi, j'étais la personne qui allait voir les... Tu sais, t'avais la fameuse manie, là, d'écrire des courriels, même si le bureau était à 30 pieds, là. Moi, j'étais plus genre, je me lève pas, là, je suis en chaise, donc je roule vers le bureau, puis je vais parler aux personnes. Moi, j'étais comme ça. Tu vois le non-verbal, puis tout, anyways. Fait que ce bout-là m'a manqué. T'as beau avoir Teams, puis avoir la caméra, puis tout, mais je sais pas. Fait que ce bout-là me manquait. Puis ça... Fait que ça revient tranquillement, ça, c'est le fun. Puis, tu sais, dans le milieu de travail, je veux pas, quand on est à distance, ben, tu vois, comme qu'on se voit là, hein, en Teams, mais c'est juste tes collaborateurs, tu sais. Là, ben, quand tu te déplaces, ben là, tu vois d'autres gens de d'autres secteurs. Ça, c'est le fun. Fait que ces échanges-là, puis de mieux comprendre la réalité de d'autres personnes qui sont en finance, qui sont... en ingénierie, whatever. Donc, ce bout-là me manquait. Puis, je pense, le fait qu'on travaille à distance, c'est la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle était très mince. Contrairement à quand tu quittes le bureau, tu rentres dans ta voiture, ou transport en commun, whatever, tu sais. Mais là, t'as déjà cette... c'est comme si tu décompressais, puis là, t'arrives chez vous.
Il y a une zone tampon.
Oui. Comme. Puis ton chez-vous, ça devient ton espace à toi. Tandis que là, c'est plus tellement le cas. Là.
Tout le monde sait que c'est quoi les posters que t'as sur tes murs.
Oui. J'essaie de mettre du flou, là. Mais oui.
Parlons un peu rétrospectivement des petits et des grands choix que tu as fait dans ta vie qui t'amènent où tu es rendu aujourd'hui?
Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui planifiait beaucoup sa vie, OK? Je suis pas... tu sais, il y en a qui faut qu'ils planifient, puis je veux atteindre tel poste ou telle responsabilité professionnelle. Moi, je vais pas mal là, au fur et à mesure. Peut-être, puis c'est peut-être... un peu par... Tu sais, tu parlais tantôt, est-ce que mon handicap me définit, mais tu sais, j'ai jamais trop su ce qui allait m'arriver. Dès un jeune âge, tu vas voir des médecins et tu dis, OK, Patrick, tu vas probablement plus marcher à 18 ans, mettons. Patrick, probablement tu vas rater l'opération. On dirait que ça te force à pas trop penser d'avance. Puis de... d'y aller au jour le jour. Fait que j'ai pas mal géré ma vie comme ça. Ma vie professionnelle et ma vie amoureuse. Parce que, tu sais, j'ai quand même... Là, je suis seul, mais je me suis marié, j'ai divorcé. Excuse, là, je pense que j'ai oublié ta question.
les choix
sont... C'est plus des choix une fois que j'ai l'option qui arrive, tu sais. Fait on est un offre pour changer de poste, donc tu choisis, je bouge-tu ou pas, tu sais. Fait que j'ai accepté quelques propositions, j'en ai refusé d'autres. Du côté de ma vie plus personnelle, nous, on voulait avoir des enfants. Ma conjointe à l'époque, est tombée enceinte. Puis là, ben, ça peut être un choix, fausse couche. Là, le choix après, ça a été plus, qu'est-ce qu'on fait, on se réessaye ou pas. Puis il y avait des complications liées, c'est pas pour rien qu'elle avait perdu, là, donc. Je peux rentrer dans les détails, parce que ça touche plus elle, puis je veux pas non plus. Fait que ce choix-là a été, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a décidé peut-être de pas réessayer. T'sais, ça a été une période quand même difficile. Puis c'est très sous-évalué l'impact d'ailleurs d'une fausse couche en passant. Il y en a qui pensent que. Puis c'est même pour le gars, c'est pas juste pour la fille.
Ben, j'allais te demander parce que j'ai personnellement eu plusieurs fausses couches en très, très, très début de grossesse, là. Mais justement, ça m'intrigue du point de vue du père potentiel, tu sais. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change?
Ben, étant donné que nous, on a fini par décider que c'était trop complexe pour elle, ça a été un deuil. Moi, je voulais, tu sais, je parlais tantôt du fait d'être différent. Moi, avoir une vie normale, c'est tellement important, tu sais. Avoir ma maison, avoir, tu sais, une relation de couple, avoir des enfants. C'était super important. Fait que ça, oups, fin de rêve, tu sais, c'est comme. Tu sais, j'étais super enthousiaste à l'idée d'être un papa, puis d'avoir ce rôle-là, tu sais, qui est super important. Fait que ça, on a décidé ensemble que c'était pas possible. Puis, tu sais, ça a eu un impact sur notre couple aussi. On s'est séparés pas longtemps après. On est revenus ensemble. Puis, tu parles de choix. J'ai comme décidé que ça valait la. Tu sais, j'avais dit à ma conjointe. J'aime mieux revenir avec toi, quitte à pas avoir d'enfant, que de recommencer avec une autre fille, quitte à avoir des enfants. Pour moi, c'était correct. Fait que, on a essayé l'adoption, puis ça non plus. Les deux, on était en situation d'handicap, puis ça, je peux t'avouer que, pas sûr que ça nous aide dans un processus d'adoption, là. Les questions qu'on a eues, était beaucoup plus sur comment tu fais pour faire ton épicerie, puis qu'est-ce que tu vas faire pour aller jouer avec ton enfant, pour aller glisser, c'est comme ça.
Je suspecte sur la base de d'autres conversations que j'ai eues avec d'autres personnes dans la quarantaine que il y a probablement je pense qu'on peut probablement parler de discrimination là, dans le processus d'adoption, c'est sûr, qui se fait de façon très subtile et même des fois pas subtile pantoute, mais tu sais, en privé ou d'une façon cachée que comment tu vas aller te défendre en cours, que dire que la travailleuse sociale vous a sous-estimé comme parent potentiel, tu sais.
Ouais, puis tu sais.
As-tu eu cette impression-là?
Ben écoute, puis je peux pas le prouver, là, comme tu viens de dire.
Ouais.
Mais ça n'a pas été loin, le processus, donc. Déjà là, je trouve que c'est un indice, parce que je suis quand même une personne équilibrée. Hein, j'ai un bon travail. J'ai pas de dépendance à des substances. Puis c'était la même chose pour ma conjointe. On a un bel entourage en plus, je veux dire. Amis, famille, tu sais, je veux dire, cet enfant-là aurait été dans un milieu de
Aimé.
vie, il n'y a pas de milieu de vie idéal, là, mais mettons, très propice à son développement, on va dire comme ça. Puis j'ai du caractère, là, tu sais, je veux dire, j'en ai passé à travers des choses dans ma vie, ne serait-ce que de mon état, fait que, tu sais, je veux pas souvent, puis nous, on voulait adopter, parce que l'international, là, tu parles de discrimination, là elle est ouverte, OK? C'est clair et net. Alors, c'est sûr que si on fait de l'adoption au Québec, c'est des enfants, c'est clair qu'ils ont des enjeux. Il y avait une famille, puis là, ils l'ont plus.
Des gros défis, là.
Je pense que j'aurais été outillé, là, moi, pour dealer avec ça. En toute prétention.
Oui. Ben, c'est une opportunité perdus à grande échelle. Là. Parce qu'à grande échelle, il n'y en a pas des millions, là, des potentiels parents adoptifs en situation de handicap, mais en tout cas, moi, ça me fait de la peine.
De... Ah, puis ça nous a fait de la peine. Ça a été quelque chose de dur. Surtout pour ma conjointe de l'époque, mais je pense, peut-être moi je le cachais un peu plus, là, mais c'est sûr. Fait que ça a changé complètement ce que je pensais être ma vie.
Non, c'est sûr. Parlons un peu d'un choix plus, peut-être moins émotif, mais celui de carrière. Tu te retrouves dans le milieu des ressources humaines. Est-ce que c'est une coïncidence?
Oui. Se trouver un emploi n'a pas été facile à la sortie de mes études. Beaucoup d'employeurs...
Excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait comme études?
J'ai fait un bac en sciences politiques. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en administration publique. Puis on parle des années 90, là, donc c'est sûr que le marché de l'emploi n'était pas comme aujourd'hui. Là, je veux dire, disons que si on fait des entrevues des fois là, dans le cadre de l'emploi, puis des fois j'ai l'impression que le candidat me passe en entrevue plus que moi je le passe en entrevue.
Mais, c'était pas comme ça quand on a fini l'école, là, c'est sûr.
Non. Puis là, ben, donc déjà là, il y a des entreprises qui ne sont pas accessibles, donc qui ne sont pas équipées pour nous accueillir. Puis les autres ne voient jamais la perspective de dire, ben, ah, peut-être que je pourrais adapter mon milieu de travail, comme ça, je vais avoir un marché de candidats potentiels par la suite plus grand. Les autres ne voient pas ça. Les autres vont dire, ben, j'adapterai pas mon entreprise pour Patrick, c'est le même qui fait ça. Au lieu de dire, ben, je vais adapter mon entreprise pour tout futur candidat qui aurait un handicap, ou pour tout employé qui deviendra handicapé, ben, ça arrive aussi.
Ben oui.
Fait que, déjà, ça, c'était difficile. Là, je me suis trouvé, et ça a pris du temps, là, toutes mes amies qui avaient gradué, il y avait des emplois, puis pas moi. Puis là, je finis par me trouver un emploi, mais dans le milieu de la personne handicapée. Les autres, ils m'ont pas discriminé. Fait que oui, c'est par accident, parce qu'ensuite, j'avais appliqué quand même à plusieurs endroits. Puis c'est sûr qu'au niveau du gouvernement, il y avait une ouverture plus grande, je pense. Donc là, je suis arrivé... puis tu sais, j'avais pas à réfléchir. Quand tu dis de choix, là, tu sais, j'étais dans un milieu communautaire. Je sais pas si tu as déjà travaillé dans un milieu communautaire. Tu as beau dire, tu sais, je veux pas non plus dire. Je pense pas avoir été quelqu'un qui était à l'argent tant que ça. Tu sais, je voulais faire quelque chose qui me plaît. Mais il y a une limite. Tu sais, fait que.
Ouais, il faut gagner sa vie un peu raisonnablement quand même.
Ben oui, tu sais, je voulais avoir. Tu sais, je m'étais acheté un condo, tu sais, puis. Tu veux une voiture, tu veux avoir un fond, tu veux avoir de l'argent pour plus tard. Même si à 20 ans, tu n'y penses pas tant. Bref, fait que quand on offre l'emploi au gouvernement, puis tu passes de 26 000 à 43 avec un fonds de pension, disons que j'ai pas réfléchi. Est-ce que je vais aimer ça? C'est que j'accepte. Fait que oui, c'est par accident. Honnêtement, tu m'aurais dit que j'allais être fonctionnaire, là. À 24 ans, je t'aurais pas cru. Fait que ça, c'est à 26 ans que je suis... Puis, vois-tu, je suis resté. Il y a beaucoup de mythes associés au travail qu'on fait. Puis, j'ai trouvé mon compte. Il y a beaucoup de possibilités. Puis, j'ai changé d'emploi quand même, surtout au début, là, à plusieurs reprises. Donc, ouais, ça a été par accident. Surtout qu'après, t'sais, j'ai comme développé d'autres habiletés en cours de route. Puis là, j'ai plein de données. Là. T'sais, une partie de mon travail, c'est d'analyser des données en ressources humaines pour aider à la prise à la décision. T'sais, si j'avais su, me serais peut-être un peu plus forcé dans mes cours de statistique puis d'analyse quantitative à l'université. Mais... oui, c'est vraiment par accident. Un heureux accident, je dirais. Parce que j'aime ça. J'aime vraiment ça.
Tu as fait plusieurs agences ou organisations différentes dans le gouvernement fédéral?
Ben, au début, peut-être trois en l'espace de 2 ans et demi. Ou peut-être 3-4 ans, excuse-moi, j'exagère. Mais là, je suis à la même place depuis 2002.
Est-ce que je peux demander d'en dire plus là-dessus ou est-ce que c'est un secret d'État?
Non, c'est pas un secret d'État. Tu veux dire l'endroit où est-ce que je travaille?
Oui, oui.
À l'Agence spatiale.
Qu'est-ce qui... À l'Agence spatiale canadienne. Puis qu'est-ce qui te retient là? Parce que comme tu le dis, on est quand même dans une situation un peu différente qu'on était il y a 20 ans sur le plan du marché du travail. Tu pourrais certainement faire autre chose. Qu'est-ce qui...
Dans un autre ministère, tu veux dire? Qu'est-ce... Ou carrément en dehors de la fonction publique?
Je ne sais pas. C'est toi qui me l'explique.
Dans un autre ministère, certainement, je pourrais. En dehors de la fonction publique, je te dirais que non, parce que... ça, on n'a pas parlé. Depuis 2016. Okay. Depuis ma jeunesse, maladie dégénérative, maladie orpheline, pas de remède. Bon, il n'y en a toujours pas, mais par hasard, en 2015... OK, puis j'ai jamais rencontré des gens qui avaient le syndrome de Morquio, à part mon frère. Tu sais, mes parents ont jamais eu... Tu sais, ça n'existait pas de réseau, puis ça n'a pas organisé, puis... On n'avait même pas vraiment de médecin spécialisé. Puis là, j'apprends par hasard, que je me rappelle même plus comment, peut-être en faisant des recherches sur Internet, parce que c'est sûr que... Écoute, là, je parle du coca-là, je m'excuse, cher auditeur, mais...
Non, non, c'est parfait, ça va être la partie la plus intéressante de la conversation, je suis sûr. Vas-y.
C'est sûr que quand j'ai appris que j'allais être père, je me suis informé un petit peu plus de ma maladie. Avant, c'était comme je veux rien savoir. Okay? Tous les pronostics ont été faux. Fait, pourquoi je m'inquiéterais? Mais c'est sûr que là, quand tu veux fonder une famille, oups, tout à coup, tu t'intéresses un peu plus à ça. Puis j'ai commencé à chercher. Puis même au début, quand je dis que la maladie est très différente, je me reconnaissais même pas dans ce que je voyais comme cas. Parce que il y a des cas plus lourds. Puis, je disais tantôt qu'on était peu au Québec, mais on était peut-être en plus grande concentration. Il semble aussi que les cas soient un petit peu moins sévères. Fait que je me reconnaissais pas dans ce que je voyais. Puis là, ben, je m'informe un peu plus. Puis là, j'apprends qu'il y a un médecin qui a une conférence à Longueuil. Puis c'est pas loin d'où est-ce que je demeure. Je demeure à Sainte-Julie maintenant. Fait que je vais y aller. Puis là, je rencontre un médecin qui est spécialiste du syndrome. Je dis, ben, Colin, ça existe, ça. Il vient de Colombie-Britannique, d'ailleurs, puis il a déménagé au Québec à cause qu'on a plus de... Fait que j'y parle, je m'entretiens avec lui, puis là, il me parle d'un traitement par intraveineuse qui ne guérit pas, mais qui, semble-t-il, il venait d'être homologué par Santé Canada, donc semble-t-il qu'il peut ralentir et diminuer les symptômes. C'est essentiellement la douleur, ce qui est quand même un gros plus. Là. Moi, je me levais le matin. Tantôt, je t'ai parlé de la journée. On se parle en 2015. Puis là, je t'aurais dit, je me lève, je prends deux Tylenol, deux Advil. OK? Parce que je me levais avec des douleurs. Alors, il me parle de ce traitement-là. On fixe une rencontre. Je m'en vais le voir. Puis là, il me dit que c'est pas couvert par
La régie.
Mais j'ai vu que j'ai une assurance privée, peut-être que. Fait que là, on est en 2015. À l'automne. Fait que il dit, c'est quoi ton assureur? Lui, il s'occupe des démarches. Et j'apprends en janvier 2016, qu'ils vont me rembourser. Puis c'est très cher, OK? J'ai pas le coût, là. Mais ça doit être genre 600 000 par année.
OK. Un peu plus que ton salaire de fonctionnaire.
Un peu plus. Fait que là, je suis assuré. J'ai le traitement depuis 2016. J'ai vu des effets. Pour vrai, là, ça a dû réduire de 70% ma douleur. Je marche un petit peu plus. Ce qui, ça a l'air de rien, mais là, je peux marcher genre 5 minutes au lieu de 2. Ce qui est très pratique.
Ah, game changer. Complètement.
Oui.
Là.
Puis. Assez, là, j'allais au travail, puis ça va vite, là. Tu sais, t'as ton traitement, là, puis peut-être un mois ou deux mois plus tard, là, t'es comme... Puis là, tu te rends compte à quel point t'avais mal. Parce que tout ça est très progressif. Tu sais, c'est à partir de... Tu sais, j'ai dit 4 ans. Fait que la douleur s'installe progressivement pour arriver à un certain seuil. Puis tu sais que t'as mal, mais tu sais pas à quel point, parce que vu que c'est tranquillement pas vite. Mais là, tout d'un coup, ça baisse. Écoute, je pleurais. Pour vrai, là, j'allais au bureau puis je pleurais de joie. Ben, je n'en revenais pas, je ne peux pas croire. Puis tu sais, mon frère l'a pas là, en passant, ce traitement-là. Ça, c'est une autre affaire que je trouve vraiment plate. Mais en tout cas, fait, quand tu dis le choix de quitter la fonction
Wow.
publique, je dirais que non. Parce que je ne veux pas mettre à risque ça.
C'est sûr. C'est sûr.
Mais je reste à l'agence pour d'autres raisons, parce que j'adore ça. C'est un milieu qui est hyper stimulant. On a des gens qui font un travail vraiment différent de ce qu'on est habitué. On collabore, ben pas moi, parce que je suis pas ingénieur. Ils sont passionnés. C'est des gens passionnés, puis on dirait que ça se répercute sur tout le monde. Tout le monde à l'agence est passionné de ce qu'ils font, que ce soit aux finances, aux ressources humaines. C'est cool, tu sais. Puis, tu sais, d'habitude, quand tu dis que t'es fonctionnaire, mais quand tu dis que tu travailles pour l'agence, le monde trouve ça le fun. Fait que c'est rendu une petite famille. Ça fait 20 ans que je travaille là. Ouais, 20 ans que je travaille là. Je suis connu. Tu sais, en plus, je suis différent. Fait que je veux pas, je suis encore plus connu que les autres, tu sais. Tu sais, forcément, on me remarque. Tu sais, je suis sûr que tu te rappelles plus de moi et Sylvain que plein d'autres monde t'a croisé dans le Parlement étudiant. T'sais. Fait que, t'sais, tout ce côté-là, je trouve ça le fun. J'ai des belles relations, je suis comme reconnu. T'sais, je pense que je fais un bon travail. Fait que, ce côté-là, pour l'instant, je suis bien. Puis, ça veut pas dire que je changerai plus. J'ai failli quitter pour un autre ministère. Finalement, on m'a offert quelque chose d'autre à l'agence, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça un beau mandat. Le monde est le fun. Puis on a une belle équipe. C'est super humain. On a du fun, on rit. Je pense que c'est important aussi là, de rire au travail. Ben, rire dans la vie en général, y compris au
Oui.
travail. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choix que tu n'as pas fait, que tu aurais préféré faire? Est-ce que tu as des regrets, des fois?
J'essaie de. Tu sais, pour moi, les regrets, c'est si j'ai fait du tort à quelqu'un, puis que j'aurais pu faire autrement, oui. Sinon, je pense qu'il faut. Tu sais, on fait nos choix à ce moment-là parce que. Tu sais, j'aurais bien pu dire, ah, j'aurais dû étudier en médecine, mettons, puis faire une job peut-être plus valorisante. J'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu bien du fun à l'université, fait bien des parties, j'ai une belle vie là, fait que pour moi c'est pas un regret. Des regrets, pas vraiment. Tu sais, je parlais tantôt, tu sais, même si je suis divorcé, puis là je me dis ben j'aurais peut-être pas dû reprendre ma relation avec mon ex-conjointe, avoir su, mais puis peut-être j'aurais eu des enfants, mais je dis ça sert à pas faire ça, ça sert à rien. Puis fait que, honnêtement, regret, non. Est-ce que je ferais des choses différemment? Probablement. Mais regret, non. Puis ça ne veut pas dire que j'ai pas fait du tort à quelqu'un. Mais sais, je te dirais, là, le seul regret, c'est peut-être. Il a fallu que je me défende jeune assez vite. Puis tu pouvais pas non plus me défendre physiquement, là, tu sais, quelqu'un. Fait que moi, c'était la parole. Fait que c'est peut-être ça le regret. Des fois, peut-être j'étais un peu dur. J'avais le verbe facile, puis renvoyer, tu sais. Fait que des fois, peut-être j'étais un peu trop direct, puis peut-être pas assez sensible aux autres. Je pense que je le suis plus. À cause, justement, à force de m'être mis dans des situations où, conflictuelles. J'ai consulté un moment donné, là, dans ma vie. Puis, tu sais, des fois, puis dans des dynamiques, là. Puis là, tu te fais remettre un verbatim de ta conversation, puis là, tu te rends compte, j'ai-tu vraiment dit ça, là, pour vrai? Tu sais, tu t'en rends pas compte. Fait que ce bout-là, peut-être, ce sera un élément de regret, de pas avoir fait cette démarche-là plus tôt. Tu sais, il y a moyen de tenir son bout dans la vie, puis de le faire de façon respectueuse. J'étais pas un fou non plus, là. J'ai toujours beaucoup d'amis, donc probablement que j'aurais des belles aptitudes sociales, mais je sais que des fois, dans le débat, je pouvais être, ouais, bon.
Plus aiguisé que
Que
tu l'aurais
nécessaire.
souhaité après coup, évidemment,
Ouais.
bon.
Ce serait peut-être le seul regret, ça. Ouais.
Puis tes plus grandes fiertés?
Fierté, écoute, mon entourage, les gens que j'ai choisi, on les choisit pas tous, là, dans le sens que des fois, dans le monde qui t'entoure, des fois tu t'entends bien avec du monde, puis eux autres moins, mais j'ai un bon cercle d'amis, puis de familial, du bon monde, avec des vraies valeurs, puis tu sais, la pandémie me l'a fait vraiment réaliser plus, parce qu'on s'ennuie, puis le support que j'ai eu, parce que là on est confiné, puis des fois c'était un peu plus compliqué pour moi, tu sais, dans tout ça. Puis les gens qui m'ont offert de l'aide, si t'as besoin de quoi, ou des fois, tu sais, il m'est arrivé des situations, exemple, tu sais, vu que j'ai des difficultés physiques, je suis sujet à des blessures, puis à un moment donné, je suis au travail, puis je me suis comme un peu disloqué le coude. Puis ça, c'est en retirant mon chandail. C'est pas...
Une activité très dangereuse.
Exact. Puis là, t'es pris, je suis en chaise roulante, là. Comment tu fais pour rouler quand t'as le coude barré? Puis c'était super douloureux. Puis là, j'ai du monde qui m'ont... Une collègue de travail qui vient me chercher à la maison, qui m'amène à l'hôpital, qui a pris congé, tu sais. C'est précieux congé. En tout cas, tout ça. Fait que ça, je suis comme super fier de ça. J'ai fait un... Tu sais, j'ai fait un petit show d'humour, OK? J'ai été à prendre un cours de rédaction à l'École nationale d'humour.
C'est normal, ouais. Fun.
Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y en a qui font du chant. Moi, j'ai décidé que, hey, je vais peut-être faire des numéros d'humour pour le fun. J'en ai fait un dans le cadre d'une campagne de charité à l'agence. Tu vas voir ça. Je suis sur YouTube. Patrick Tanguay, Morpio. Tu vas voir. Mon premier show à vie, c'est enregistré de façon amateur, là.
Mais... Alors, tout le monde qui écoute ça, allez cliquer sur « like » sur le show de Patrick Tanguay, Morquio, YouTube. Alors, on va aller voir ça. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast.
OK. Puis, soyez indulgents, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Fait que j'ai... Puis là, j'en ai organisé un pour les amis. Puis, il y a eu plein de monde qui sont venus, genre 110 personnes. Puis, fait que c'est ça, je suis comme fier de ça, tu sais, d'avoir cet entourage-là, puis là, je commence à donner des conférences sur le fait d'être en situation de handicap. Puis c'est pas une conférence que le monde pleure, là, tu sais. Je parle des défis, mais je veux pas que ça... Tu sais, je veux que les gens sortent de là pour dire on n'en fait pas assez. On a peut-être des fois un regard qui est pas correct, dans le sens... Peut-être je vois pas toutes les possibilités que ces personnes-là peuvent amener dans un milieu de travail, parce que c'est sûr que ça aurait lieu au milieu de travail. Mais, tu sais, je veux que ça soit positif. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que je suis fier de ça, tu sais, d'avoir fait du judo avec cette, tu sais, là, de prendre une situation qui est peut-être pas idéale, mettons, puis d'en faire une force. Tu sais, je pense que ça m'a amené, puis quand tu dis, ça fait-tu partie de toi? Oui. Tu sais, même quand j'étais plus petit, j'ai déjà été un peu religieux, OK? On allait à l'église. Là, je ne le suis plus du tout. Puis je priais avant de m'endormir. Puis j'ai jamais dit, tu sais, s'il vous plaît, bon Dieu, faites que je guérisse un jour. C'était, s'il vous plaît, faites que je m'accepte comme je suis. Fait que tu sais... Je pense à la bonne approche. Puis ça, c'est chapeau à mes parents, parce que je pense que c'est vraiment là l'importance de la famille quand on est différent. C'est toujours important, OK? Tes parents sont toujours importants. Mais en situation de différence, là, c'est multiplié par 10. Fait que du fait qu'eux autres, ils n'aient jamais... Tu sais, ils m'ont jamais limité. Ils ont toujours trouvé ça hyper important qu'on aille à l'école comme tout le monde, pas une école spécialisée. T'sais, c'est sûr que peut-être que certaines personnes sont obligées, là, je juge pas ça, mais t'sais, nous, on pouvait aller à l'école normale, donc pourquoi pas? Puis, t'sais, mais l'école secondaire n'était pas accessible, là. Je veux dire, moi, je m'en... il y avait des marches, puis ils n'ont jamais installé d'ascenseur. Ils n'ont jamais. Tu sais, quand tu dis.
Hein.
Non. Là, il y en a, ça paraît-il. Fait que pendant 5 ans, c'est monter les marches. Mon frère, lui, il ne marchait pas vraiment. Il montait ça ses fesses. Puis là, il y avait une chaise en haut, une chaise en bas. T'sais, ça n'a pas de sens. Fait que. Mais tu sais, regarde,
wow.
C'était mieux ça que. Fait qu'on l'a fait. Puis. Bref. Fait que ça, je suis à le dire.
Qu'est-ce que c'est, tu penses, les revendications les plus pressantes en ce qui a trait aux personnes en situation de handicap, que ce soit pour toi personnellement ou plus globalement? Qu'est-ce qui est urgent?
Participation égale. Tu construis avec accessibilité universelle. Les gens focusent sur le coût. Quand tu prévois d'avance le coût, la différence est peut-être de 1%, genre. On veut participer, on veut travailler. On veut fonder une famille, on veut prendre des vacances. Je veux... Tu sais, il y a des pays mieux que le Canada là-dessus, on va se le dire. Les États-Unis, entre autres. Ben, les affaires que je trouve que les États-Unis sont... C'est pas un exemple pour moi, mais l'accessibilité universelle, eux autres, c'est comme un droit, là. Okay, tu vas au Mont Washington, puis il y a un moyen de te rendre en haut, là. J'étais en Espagne, à Barcelone, puis t'arrives au resto, puis là, combien de restos, les toilettes sont pas à l'étage, pas accessibles, puis tes appels, êtes-vous accessible au fauteuil roulant? Ils vont me dire oui. Ben, je peux pas aller aux toilettes, ouais, mais la salle à manger. Est-ce que tu ouvrirais un restaurant sans toilettes? Est-ce que tu ferais ça, toi?
Non.
Tu sais, je veux dire, alors pourquoi, vu que je suis en fauteuil, c'est correct? Fait que c'est tout ça qui est tannant. Tu sais, là, il faut que je fasse adapter, parce que j'ai acheté cette maison-là à Sainte-Julie, parce qu'il y avait déjà un ascenseur. Puis là, il faut que je le change, là, puis c'est compliqué. J'ai attendu 2 ans entre ma demande puis quelqu'un vienne chez nous. Tu sais, c'est pas normal. Puis là, c'est lourd. Faut que je soumette à deux, puis ici, puis ça. Puis là, j'essaie de trouver un contracteur. J'en trouve pas. Fait que là, ça traîne depuis le mois de juin. Puis là, j'ai appelé. J'ai dit, là, le contracteur, peux-tu faire autrement? Puis non. Tu sais.
La paperasse, genre, les critères, puis la, je veux pas dire la bureaucratie, parce que souvent c'est bon la bureaucratie, mais.
C'est ça, fait que c'est comme.
Le red tape.
C'est d'accepter que on ça soit. C'est ça, tu sais, le transport commun. C'est accepter que ça soit plus compliqué pour nous. Ça, j'ai hâte de ça.
C'est pris pour acquis que. Un handicap, ben c'est plate, mais tu vas être obligé de sauter plus haut que les autres parce que.
Ouais, ou juste t'empêcher. Fait que t'es comme exclu de plein de choses. Puis tu sais, ça impacte ta famille et tes amis. Tu sais, il y a des choses, des activités qui peuvent pas m'inviter. Tu sais, faut pas non plus virer fou, là. Un handicap demeure un handicap. On peut pas pallier à tout. Mais, exemple, un bord de plage, c'est quoi mettre un tapis, ça existe, qui t'amène dans l'eau? C'est pas un investissement de fou, là.
Ouais.
Mais, c'est combien de plages qu'il y en a? Presque pas. Tu sais, c'est des petites affaires tannantes de même. Recherche de chalet, là, je veux dire, j'en ai deux, là, que j'ai vus, là. C'est tout ça. Ça, c'est tannant.
Est-ce que c'est des combats qui t'occupent au quotidien? Tu mentionnes que tu fais partie de certains CA, puis tu donnes des conférences. Est-ce que ça fait une partie significative de ta vie aujourd'hui d'essayer de...
Pas tant.
D'enlever les barrières?
Pas tant, parce que... Tu sais, juste ma vie tous les jours, là, pour l'instant, tu sais, peut-être à la retraite, là. Quand j'aurai plus de temps libre. Mais tu sais, le travail m'occupe beaucoup. On a des longues journées. Fait que des fois, ça me tente pas. Fait que j'essaie de trouver le juste milieu. Je suis un peu plus revendicateur, mais j'irai pas monter des pétitions, faire des représentations auprès de mon député.
Ça t'ajoute un autre fardeau de s'attendre à ce que tu fasses ça parce que tu es en situation de handicap.
Oui.
En plus, non seulement il faut que tu vives avec le fait que tu peux pas rentrer quelque part, mettons, tu peux pas utiliser la salle de bain, mais en plus, tu es supposé mener le combat pour augmenter l'accessibilité de ces lieux-là.
Ouais. Puis ça te met en position d'être toujours fâché. Ça me tente pas. Je me fâche déjà assez facilement de même. Fait que non. Je le fais à petite dose, on va le dire de même. Mais je suis pas un militant, là. Tu sais, le fait de participer à des CA, je trouve que ça me permet de le faire de façon, tu sais, d'appuyer des gens peut-être qui vont le faire un peu plus. Mais j'ai pas cette énergie-là.
Les plus fougueux.
Les plus fougueux.
Je me demande, tu mentionnais tout à l'heure, quand tu étais plus jeune, tu voulais vraiment être comme tout le monde, tu sais. Puis là, tu es plus revendicateur. Cette fougue-là, tu l'aurais peut-être eu plus dans la vingtaine.
Même pas, parce que justement, en voulant être, c'est comme si tu voulais cacher ton handicap. C'est plus dans ce sens-là, être.
Ça, le timing n'est pas bien bon, tu sais,
Non.
de l'énergie versus la clarté requise pour ou l'indignation requise pour ça. As-tu l'impression que les plus jeunes personnes, je veux pas dire qu'on est vieux, mais on vieillit certainement, on fait plus partie des jeunes comme on le faisait il y a 20 ans, tu sais. As-tu l'impression que chez les personnes plus jeunes en situation d'handicap, il y a encore ce même comme conflit-là entre faire partie du, tu sais, faire comme tout le monde versus être plus revendicateur, protestataire même.
Je présume que oui, mais je présume. Je penserais que oui. Parce que il y a encore des obstacles. Donc, dès que tu fais face à des obstacles, à un moment donné, des fois, naturellement, je pense, tu as tendance à pas vouloir. Tu sais, quand tu as des obstacles sur des choses de base, tu sais, comme aller à l'école, mettons, faut-tu vraiment commencer à te battre pour d'autres choses, c'est comme si ça te fait peur un peu. Tu sais, j'ai entendu des histoires là, de jeunes qui ont besoin d'un chien d'assistance, puis là, l'école veut pas, puis l'enfant arrive, puis là, il y a une ligne humaine de personnel enseignant. Je veux dire, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, puis t'as comme 7 ans, là. Tu fais quoi? Vas-tu vraiment, après ça, dire, du coup, il me semble que ça te remet à ta place solide. Je sais pas. J'aimerais ça. Puis en même temps, je me dis l'école est de plus en plus ouverte. Donc, moi, la différence pour les jeunes, je te dirais, c'est je vois plus l'ouverture des non-handicapés jeunes. C'est beaucoup moins. Les autres sont beaucoup moins impressionnés, là. Ils ont moins de malaise. Parce qu'ils en ont vu probablement à l'école. Dans le cadre de tout leur parcours scolaire, probablement qu'ils en ont croisé un peu plus.
Ou même dans les médias, à la limite, même des choses que les gens n'ont pas vues en vrai, entre guillemets, on sait que ça existe, puis ça nous. Les gens sont moins impressionnés peut-être aujourd'hui qu'on l'était il y a 30,
Je
40 ans.
pense que oui. Mais même là, tu te parles du nouveau média, là. J'ai-tu hâte, moi, qu'il y ait un rôle accordé à quelqu'un en situation d'handicap, qui n'a rien à voir avec son handicap.
Ah ouais.
Exemple, je suis enseignant, puis là, ben, je suis en chaise. Puis c'est une série sur, hein, un genre de Virginie, toi. Virginie, pour ceux qui sont assez vieux pour savoir c'est quoi. Tu
Qui
sais,
s'adonne à être en fauteuil.
oui. Puis c'est sûr qu'il y aurait peut-être des aspects qui couvriraient son handicap dans le cadre, mais ce ne serait pas ça le but de l'émission.
Le cœur de la patente, ouais. Ah là, je t'entends complètement. Mais j'ai, je sais pas, moi, j'ai peut-être parce que je vis en Colombie-Britannique, puis que je suis exposée à plus de gens qui donnent dans la théorie critique, puis tout ça, là, tu sais, mais il me semble que j'oserais croire qu'il y a plus de sensibilisation à ces aspects-là de discrimination. Je sais pas si on... Il va y avoir le pouvoir politique de changer les choses, politique au sens du pouvoir, là, tu sais, d'effective, et économique aussi, de pouvoir effectivement changer les choses pour que ça améliore la situation, mais au moins, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'ouverture.
Ouais, moi aussi. Puis, je pense aussi que le vieillissement de la population aide. Les gens, on vit de plus en plus vieux, donc les limitations physiques vont être plus fréquentes pour les gens. On a un pouvoir d'achat, si je veux pas, c'est encore l'argent qui parle.
Ouais.
Puis dans toute la mouvance des droits civiques en général qu'on vit pour d'autres, pour t'sais, Black Lives Matter, puis ces choses-là, je pense ça se répercute sur d'autres différences, d'après moi. L'expression des genres, t'sais, tout ça. Je pense, puis tu sais, là je sais qu'ils veulent, ils vont avoir une loi sur l'accessibilité au Canada dorénavant, qui va demander en tout cas aux institutions de juridiction fédérale d'augmenter, que ce soit le service aux citoyens mais aussi pour les employés, de faire de gros efforts pour dire là, ok, là faut penser à l'accès pour tous. Fait que, oui, moi je suis positif aussi pour ça. Puis à mesure qu'on en crée, on voit. Parce que souvent les gens disent ben pourquoi je me rendrais accessible? Je vous vois jamais, mais c'est sûr qu'il n'est pas accessible. T'sais, c'est un peu comme l'œuf et la poule.
L'œuf et la poule, voilà.
Fait que c'est à force. Puis quand je dis que je suis un peu plus militant, c'est dans mes choix de consommateur.
OK.
Tu sais, j'ai trouvé un chalet accessible, là. Mais crime, j'y vais à chaque été. Les restaurants. Tu sais, avant, regarde, c'est sur le deuxième, ben, j'y vais pas. Tu sais, puis je vais aller à l'autre à côté qui est accessible, puis qui a une salle de bain qui a de l'allure. Fait que c'est dans ces choix-là, maintenant, que je suis comme un peu plus. Puis même quand je me fais inviter, ben, avez-vous pensé, tu sais, au travail, là, on crée des événements pour tous les employés. Ben, c'est-tu accessible ou pas? Si ça l'est pas, ben, on peut trouver nos places. Fait que dans ces gestes-là, j'essaye au moins d'être conséquent, puis
de te faire entendre.
Ouais.
Pour que tu puisses être présent. Tournons-nous vers l'avenir. Puis t'as dit quelque chose au tout début de notre conversation qui m'a touchée. Tu voudras peut-être revenir là-dessus, la question du deuil. Il y a comme une forme de deuil dans l'idée même d'une maladie dégénérative. Là. Je ne veux pas biaiser ta réponse, mais comment perçois-tu l'avenir à l'aube de la cinquantaine, presque, je peux dire ça, parce que tu as 49.
Oui, tout à fait. C'est sûr que la quarantaine a été peut-être la période où j'ai perdu le plus. Mi-trentaine, quarantaine, que là, au niveau physique, là, quand je te dis, je me suis disloqué le coude en enlevant le chandail. Ça reste un choc, tu sais, quand tu as joué au hockey, quand tu sais, je faisais beaucoup d'exercices, tu sais, je pouvais faire, mettons, tu sais, je levais des poids, ces choses-là, là, je peux plus. C'est sûr que cette perspective-là, je me dis, ça va être quoi, mais j'ai 60, mais j'ai 70. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe un petit peu. Fait qu'il y a ce côté-là, fait que j'ai tendance à profiter pas mal. Tu sais, là, je peux voyager go, là, puis tu sais, je peux... Fait que ça, j'essaie de le faire le plus possible, là. Tu sais, prévoir l'avenir au niveau financier, là, mais en même temps, ça, si je m'arrive à une situation où je suis tellement limité que là, le voyage est difficile, je suis bien dépensé mon dollar voyage maintenant. Fait qu'il y a ce bout-là. Essayer de profiter aussi le plus possible de mon entourage, pas profiter là, mais de profiter de la présence de mon entourage, le plus possible. Le côté humain, amitié, parce que je trouve ça précieux, puis c'est peut-être ce qui est le plus important là, dans tout ça, là, qui te permet de garder un équilibre. Tu sais, là, quand tu perds un peu au niveau physique, ben c'est de rire avec du monde, puis de savoir que tu es important pour eux, puis qu'ils sont importants pour toi. Puis peut-être en fait conjugué au fait que j'ai pas d'enfant, donc tu sais, ma petite cellule familiale, moi faut que je la voie autrement là. Ça pour moi, c'est peut-être ce qui me fait réfléchir le plus pour l'avenir. Ça puis l'environnement là, parce que avec tout ce qu'on voit, sécheresse, météo extrême. Je me dis, j'ai hâte de voir, en tout cas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tu sais, nous, c'est pas trop pire, là, parce que c'est sûr que les changements risquent de survenir vraiment. Les changements vraiment épouvantables risquent de survenir quand je serai plus là. Mais je sais pas. On dirait que je suis plus conscient de ces affaires-là. Là. Mais moi, ouais, c'est un peu ce que je vais faire peut-être à ma retraite. Je prends ma retraite relativement jeune. Justement pour pouvoir profiter de mes capacités, puis peut-être donner plus de conférences, puis là peut-être, t'sais, militer, mais militer par sensibilisation, par l'humour, pas par être fâché, ça me tente pas.
J'aime ça, l'aspect de l'humour. Je pense que ça convient bien à ta personnalité, de ce que j'en connais en tout cas. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une bonne manière de confronter les gens, mais d'une manière qui rend les gens moins susceptibles peut-être de se fermer aux messages qu'ils entendent. Quand est-ce que tu peux prendre ta retraite?
À 58 ans.
C'est dans pas si longtemps que ça quand on y pense, hein.
57,
Ça
même,
s'en
qu'est-ce que je
vient.
dis là? 57.
C'est 10% de différence, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Ouais, c'est
Ouais.
ça, parce que justement, quand tu parlais des choix, tu sais, plus jeune, j'aurais dit, j'attends d'avoir, tu sais, ce qu'on appelle la pleine pension.
Ouais.
Puis là, je dis pourquoi? Ça m'empêchera pas de travailler, tu sais, ça m'empêchera pas de peut-être prendre des contrats ici et là, mais plus les choisir, puis peut-être plus jumeler ça avec d'autres intérêts que tu laisses de côté un peu avec le travail à temps plein, puis ça donne une porte, je trouve, puis c'est ça. Parce que, tu sais, on parlait de voyage, j'aime beaucoup voyager, puis tu sais, les premiers temps, là, mon premier voyage avec mon frère, on fait France. France-Espagne, OK? Puis 3 semaines. Puis on a roulé une shot, là. Pas juste en voiture, mais en chaise. On faisait tout en chaise, OK? Parce que, soit en France, là, l'accessibilité, c'est pas fameux. Fait
Le métro de Paris n'est pas vraiment accessible.
que,
Ça a peut-être changé un peu, mais.
je me suis même pas essayé, là, pour être franc, là. Je regardais le reste, fait que je pensais à ça. Fait que, tu sais, on faisait tout à pied, là, en chaise. Puis on roulait en tabarouette, là, tu sais, comme 20-25 km par jour. T'sais, on calculait ça, c'est fou. Puis là, on a refait un autre voyage plus tard. Puis là, oublie ça, là. Tu sais, je veux dire, je serais plus capable de faire ça. Fait que je dis ça, fait que c'est pour ça, tu sais, prendre un peu plus tôt la retraite, ça veut dire que cette limitation-là,
Ça croît avec les années.
probablement. Fait que c'est sûr que là,
Mais
j'ai.
est-ce que c'est parce que ta maladie empire ou c'est parce que ma mère dit tout le temps tu grouilles ou tu grouilles ou tu rouilles, tu sais? As-tu l'impression que tu te limites un peu
Non,
aussi?
je me limite pas, pas du tout. C'est vraiment, tu sais, je parlais du hockey sur luge. Vers la fin, tu te rends compte que là, c'est trop dur pour toi, là. Tu finis ton 2 heures de hockey, puis t'es comme détruit, là. Puis là, je me blessais souvent. Puis oui, un peu de rouille. Moi, je suis chanceux, je n'ai pas été opéré, mais il y en a qui ont ma condition, qui sont fait opérer souvent. Fait que veux pas, t'es en période ensuite Voyons, je cherche les mots.
Récupération.
Ouais, tu sais, fait que t'es comme alité, là, tu sais, puis pendant ce temps-là, tu bouges pas, là. Fait que là, ça s'incruste. Mais non, c'est vraiment par la force des choses. Parce que justement, c'est le contraire. Il y a plein de monde qui dit, pourquoi t'as pas un fauteuil électrique? Parce que c'est le début de la fin pour moi. Je vais peut-être en avoir un jour. Puis là, vois-tu, j'envisage vraiment aller me chercher. Ils ont des fauteuils, tu sais, de montagne, là.
Ouais.
Ça, je. Puis c'est électrique, tu sais. Fait que tu peux monter à la
Ça
côte.
vaut la peine.
Ça se peut. Mais tu sais. Fait que tu sais, j'essaye de tirer ça. Je marche le plus possible encore, même si ça me fait mal. Justement pour pas arriver à un point d'encroûtement. Mais c'est la force des choses. À un moment donné, c'est vraiment qu'à un moment donné, ça n'a juste pas de sens. Ça fait trop mal. Puis, t'sais, ça sert à quoi si je fais de quoi une journée, puis le lendemain, je suis sur le dos toute la journée parce que j'ai été trop fort, ça vaut pas la peine.
Quel héritage souhaites-tu léguer?
Hey boy. C'est une question difficile, puis j'aimerais. Je sais pas, écoute. Je pense pas d'en laisser. Ça, on n'aura pas un nom de rue à moi. J'espère juste que quand tu seras fini pour moi, là. Ben, que pour ceux que j'ai côtoyés, ils se disent que crime, ça a été une perception de moi comme j'ai vécu ma vie de façon heureuse. J'espère, c'est pas partir aigri, puis fâché, puis frustré, puis j'espère garder le côté drôle, un peu irrévérencieux. Je veux que les gens partent avec cette idée-là que j'étais un bon frère, un bon ami, un bon collègue de travail. C'est pas grand-chose, hein, mais je pense sur ton lit de mort, là, c'est rare que tu penses au nombre de projets professionnels que tu as fait. Je pense qu'en bout de ligne, tu penses à ton monde, puis le monde que t'aimes, puis qui t'aime. Je veux juste partir comme ça. Puis le reste, quand ça m'appartient pas, là. Je sais plus.
Dernière question pour toi, Patrick, ce serait quels sont tes plus grands espoirs pour peut-être, disons, les 10 prochaines années? On en a parlé un petit peu,
Pour moi?
mais oui, pour ta vie à toi, là.
Pour ma vie à moi, écoute, poursuivre dans ma poursuivre que qu'est-ce que je vis là, continue. Pas dans le sens car ça se peut que j'aie plus de limites physiques, c'est pas dans le sens-là, mais c'est vraiment dans le sens de mon état d'esprit, puis toutes les gens avec qui que je côtoie, puis le fun que j'ai avec eux autres, puis j'espère juste que ça continue encore pendant au moins 10 ans. Comme je te dis, c'est vraiment, je suis vraiment, j'ai un bon milieu de vie. Fait que j'espère juste que ça continue. Parce que, écoute, honnêtement, j'ai pas à me plaindre de grand-chose de ce point de vue-là. J'espère faire un autre show.
Ah, j'aimerais
Ouais,
ça,
ça,
j'aimerais
j'aimerais ça
ça.
me remettre là-dessus un peu. Parce que ça avait été le fun. J'en ai fait un. Écoute, je sais pas dit ça, là, mais le premier que j'ai fait, j'avais loué un resto, puis tout, puis il y a eu un feu, Colin. J'ai jamais pu le faire.
Ben, voyons donc.
Le feu pogné. Fait que on s'est retrouvé dans le stationnement. On a continué le party là, mais pas de show. Fait que j'en ai fait un plus petit de. On était peut-être 40. Puis ça avait été super le fun. J'ai eu un thrill, tu sais, là, vraiment. Là. Faire rire du monde, c'est le fun. Puis faire rire du monde, c'est comme 40 à la fois, là. Dans ce cas-ci, plus, c'est vraiment le fun. Fait que ça, j'espère. Tu sais, là, 10 ans, je dis, je prends ma retraite dans à peu près 7 ans. Fait que ça me reste 3 ans pour monter quelque chose. Fait que ça, j'aimerais ça.
Moi, je pense que je vais te mettre au défi, drette là, de ne pas attendre, puis de t'y mettre plutôt que de plus tard, parce que je vois, tu sais, que ça a vraiment, ça te donne un lift, ça te donne un boost, tu sais, puis je suis sûre que c'est aussi une façon assez formidable d'avoir un impact sur les autres. En tout cas, j'espère que tu vas le faire
Ouais,
avant
c'est
10 ans.
ça. Ouais, oui, puis dans le fond, mon matériel est tout écrit. Faut dire juste que je me le réapproprie. Fait que, OK, je vais accepter ton défi. Je te tiens au courant.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous pour réagir à ce 8e épisode de La Quarantaine. Visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.